Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir l'écomusée de Marquez, en la personne de Barthélémy Loustalant, responsable de la communication, et Benoît Baratas, animateur et guide sur le site. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Bonsoir, très bien aussi.
On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre lieu qui est assez unique et emblématique de l'histoire, de la conservation et de la culture de notre région. Vraiment un endroit très chouette. D'abord, on va écouter le Flash Info national et international et on se retrouve tout de suite après pour le début de cette émission. Et c'est parti. On va bien sûr découvrir ce site de Marquez qui est vraiment très chouette. Mais on a des gens devant nous, on a Benoît et Barthélémy. La tradition ici, c'est demander un petit peu aux gens leur trajectoire, une petite bio pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés à mon micro aujourd'hui, si c'est sans être trop indiscret, bien entendu. On commence par Barthélémy, je sens qu'il piaffe d'impatience.
Allez, je vais résumer un peu. Moi, je suis d'une famille originaire des Landes avec des racines très ancrées ici. J'avoue, j'ai grandi à Bordeaux, il faut me pardonner.
Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, ça, on le dira pas.
Voilà, et après avoir fait quelques études, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu un peu partout dans le monde. Et j'ai réussi à. Je suis très heureux d'avoir pu revenir dans les Landes avec ce travail dans la communication à Marquez. Moi, j'ai beaucoup fait de communication dans l'associatif, travaillé également entre autres dans l'hôtellerie. Donc, je me suis trouvé très à l'aise dans ce lieu que je connaissais et que j'aimais énormément.
Mmh, mmh. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce site ?
Alors, simplement depuis janvier.
D'accord. Ah oui, c'est tout frais.
Voilà.
D'accord. Ok. Très bien. Et bien maintenant, on va parler à Benoît. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Benoît ?
Et bien moi, j'ai grandi à Cap-Breton, pas très loin d'ici. Et je me suis passionné pour le territoire landais, un peu sur le tard finalement, comme pas mal d'entre nous. Parce que j'ai voyagé, j'ai fait des études et souvent les gens me demandaient qu'est-ce qu'il y avait dans les Landes. Mmh. Et ils me parlaient souvent des pins, de l'océan, des férias.
Oui.
Et un jour, j'ai vécu en Bretagne pendant quelques années avec des passionnés de leur territoire qui en savaient beaucoup plus sur leur territoire que moi, le mien.
C'est vrai que... Ouais.
Et j'ai eu à cœur de revenir. Et à l'époque, je faisais de la photographie plasticienne. Mmh. Et alors, j'ai eu envie de documenter mon pays, en gros, d'où je venais. Et je suis allé chercher... une âme que je ne percevais pas au départ et j'ai découvert la Grande Lande, pile où il y a Marquez en fait, en allant chercher les fontaines guérisseuses des Landes.
On en a parlé un petit peu en antenne.
Ce qui m'a amené à découvrir plein de petits villages très très beaux avec un caractère incroyable. Et puis voilà, et de fil en aiguille, j'ai visité Marquez aussi et ça me paraissait un endroit formidable pour pouvoir... continuer cette passion du pays et la transmettre aussi et en apprendre davantage.
Mmh, bien sûr. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue avec d'autres invités. J'avais comparé un petit peu les gens aux anguilles ou aux saumons qui, des fois, ils naissent à un endroit. Bon, ils s'en éloignent parce qu'ils descendent le cours de l'eau. C'est normal, c'est la vie. Mais il y a toujours... on dirait une sorte d'appel de la racine, un rappel, et je crois qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans les gènes, mais apparemment, il y a, pour beaucoup de gens en tout cas, il y a un phénomène qui se passe, à un moment donné, on se sent rattiré par l'endroit d'où on vient, et sa culture qu'on ne connaît pas forcément effectivement, parce qu'on y est, et c'est vrai que les Bretons, ils ont toujours été assez militants, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de mouvements autonomistes landais, mais en tout cas, Bretons, il y en a eu, ils n'ont pas été aussi connus que les Corses ou les Basques, mais il y en a eu aussi. On va commencer évidemment par une présentation un peu générale de ce site. C'est un écomusée Marquez, donc il a quand même un historique, une histoire intéressante. Est-ce qu'on peut en parler de ça ?
Ouais, bien sûr. Et puis c'est intéressant parce que la démarche de vie de Benoît correspond assez bien à la démarche de création de l'écomusée. L'écomusée, il a été créé en 1969 avec notamment cette conscience très vive que le patrimoine landais, le patrimoine culturel, le patrimoine bâti, le patrimoine paysager avait une importance dont les Landais n'avaient pas toujours conscience. Mmh. Je pense notamment à l'Érial, donc l'Érial qui est cette, disons pour simplifier, je caricature, mais cette clairière au milieu de la forêt dans laquelle il y a des, des bâtiments d'habitation et de fermes et qui constituent un espèce de tout quasi autonome.
Oui, c'est ça.
L'Arial était vraiment dévalorisé à cette époque. On laissait les bâtiments s'effondrer. C'était vu comme un habitat complètement désuet. Mmh. Et avec la création de Marquez et cette volonté de valoriser l'Arial, de valoriser la culture landaise, on sent qu'il y a tout un mouvement qui s'est mis en marche à partir de ça, et avec un vrai travail de recherche sur la culture landaise.
Oui, alors c'est vrai que les Arials, on en retrouve pas mal qui ont été retapés, ou des gens dont les ancêtres ont vécu là, notamment il y a des aires naturelles, des sortes de camping et tout ça, qu'on retrouve dans des Arials landais, et des fois au rythme des randonnées, des fois dans la forêt, on peut tomber sur un Arial. Voilà, quand on ne connaît pas au début, c'est un peu surprenant. C'était souvent habité par une ou plusieurs familles. C'était presque un petit hameau, en fait. Hein, c'est l'unité la plus petite d'habitation de landaise, quoi, l'Arial.
Et c'était vraiment l'unité qui faisait la société landaise. Mmh. C'était l'organisation sociale se faisait vraiment historiquement autour de l'Arial. Mmh. Et c'est tout ça qu'on a cherché à reproduire, à recréer, et surtout à refaire vivre. Parce que du coup, c'est un Arial qui vit au quotidien, avec cette chance d'avoir un aérial avec énormément de bâtiments, ce qui est devenu très rare.
Oui, voilà. Alors moi, du coup, j'en profite d'occasion pour parler de votre site internet. Bon, bien entendu, dans le podcast, il y aura un lien. Il y a une très chouette vidéo de présentation qui fait 23-24 minutes, je crois, à l'entrée du site, où vraiment on voit l'historique et des gens, des témoignages de gens qui vivaient dans l'aérial qui était le Marquez avant que ce soit un écomusée, avec des photos d'époque. Ils racontent leur vie, ce qu'ils y ont fait, et la découverte, la restauration de ces endroits. C'est vraiment cette vidéo est vraiment très chouette, je trouve.
Ouais, c'est très intéressant et ça fait vraiment partie de toute la démarche. C'est-à-dire que Marquez, c'est un aérial qui a été habité jusque. Il y a peu d'écart entre le moment où les derniers habitants sont partis de Marquez et la création de l'écomusée. Et donc, quand les fondateurs ont créé l'écomusée de Marquez, ils ont eu accès à tout ce patrimoine vivant. Dans les Landes, on a une grande culture de l'oralité et ça a permis de consigner le fait d'avoir les vidéos, les enregistrements, les archives de ces personnes qui ont véritablement vécu à Marquez ont pu partager ce qu'ils vivaient. C'est d'une part, au niveau patrimonial, c'est une chance extraordinaire. Et nous, ça nous permet de continuer à faire vivre ce site dans toute son histoire et dans toute sa tradition.
Ouais, c'est un petit peu de l'ethnographie, en fait. Tout ça, c'est la conservation de effectivement, l'oralité, la langue. Les histoires, les chansons, tout ça, c'est des choses qu'il faut, il faut pas laisser s'échapper dans le vent. Il faudrait essayer d'en garder des traces. Et alors, tiens, on va commencer par le premier contact. Hein, voilà, quand vous allez à Marquez, comment est-ce que vous arrivez à Marquez? Si vous n'êtes pas au courant, c'est un train. On appelle ça le petit train entre nous. Hein, le petit train, c'est un train qui, alors je ne sais plus quelle est la date, mais il est vraiment très ancien avec les vieux sièges, la partie passager, tout ça, qui ne roule pas vite, hein, sur une longue ligne droite qui, depuis la gare, mène à l'accueil du site. Je ne sais pas quelle année date le train à peu près.
Ah oui, c'est assez précis, on sait exactement ce que c'est, parce que les wagons du train sont classés monuments historiques.
Oui.
Donc ils datent de 1903.
Ah oui.
Et ils ont été sauvés par l'écomusée de Marquez, puis protégés avec les monuments historiques. Et c'était les trains, alors d'une ligne qui pour le coup n'est pas landaise, mais le train qui partait de Montpellier pour aller à Palavas-les-Flots.
D'accord.
Donc un vrai train de passagers.
Oui. D'accord. Donc ça a été, c'est de l'importation, on va dire.
C'est de l'importation et de la préservation.
Oui.
Toutefois, les rails étaient présents depuis 1898, ce qui a un peu désenclavé justement certains quartiers avec ces rails qui passaient. Ça correspond à la plénitude de l'exploitation forestière.
Oui. C'est vrai que ça traverse l'Arial par en part, en fait, la ligne, il me semble. Qu'on peut traverser. Enfin, le train ne traverse pas, mais je crois qu'il s'arrête avant. Mais je crois que la ligne continue encore. Je ne sais pas jusqu'où elle va, d'ailleurs.
Alors, le train ne traverse plus.
Oui.
Mais effectivement, il allait jusqu'à Pantin, je crois.
Alors, il y a plusieurs versions, mais j'ai entendu, moi, qu'il allait jusqu'à La Bouère. Mais après, c'est vrai que de La Bouère, il y a aussi le train qui va jusqu'à pratiquement Mimizan. Et sur la ligne, d'ailleurs, à Saint-Paul-en-Born, il y a la gare de l'Art aussi, j'en parle comme ça, parce que c'est une ancienne gare qui a été... Ils ont changé ils ont gardé le bâtiment comme ça, mais ces rails de train, ils allaient comme ça jusqu'à l'océan. Et aussi vers Bordeaux, à La Bouère, qui était l'échangeur.
Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu, on va en parler après, on va parler de gémage et de pain, etc. C'est des ressources. Il y a eu du commerce, hein, de l'exportation. Voilà, dans les Landes, on ne fait pas que du maïs. Hein. Voilà, donc c'est que le pain reste une ressource importante, hein, le pain dans les Landes. Et alors, le site lui-même, donc, à l'origine, c'était un aérial, mais alors. Qu'est-ce qui a été changé par rapport à l'original, des bâtiments qui ont été rajoutés, des objets, etc. Qu'est-ce qui a été importé? On a parlé un petit peu de Suède tout à l'heure, même si ça peut surprendre.
Oui, en fait, la plupart des aérials aujourd'hui, sur la plupart des aérials, beaucoup de bâtiments sont effondrés. Parce que quand on n'envoyait plus l'utilité, quand on n'avait plus l'utilité d'un bâtiment dans les Landes, on le laissait tout simplement s'effondrer. Et ça arrive encore d'ailleurs malheureusement aujourd'hui. Et donc sur cet aérial, on avait un certain nombre de bâtiments originaux, notamment la fameuse maison de Marquez là, qui va être restaurée grâce à l'hôte du patrimoine. Mmh. Et on avait des cartes anciennes qui permettaient de resituer d'anciens bâtiments. Mmh. Et dans leur travail de préservation, les fondateurs sont allés récupérer certains bâtiments, souvent des bâtiments un peu emblématiques, un peu uniques, pour les restituer à l'endroit où se trouvait un bâtiment de même type sur l'aérial. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui cet ensemble de bâtiments qu'on espère le plus proche possible de ce qu'il était, de ce qu'il était originalement, et ce qui fait de Marquez un lieu assez unique dans ce cadre-là, puisqu'on a, on pourrait dire, une forme de quartier complet.
Oui. D'ailleurs, en parlant de cette maison de Marquez, elle est vraiment mise en avant dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Hein, on la voit bien et on en parle pas mal. C'est un peu la maison emblématique qu'a donné le nom au lieu, en fait.
Tout à fait, oui. Alors, il y a des discussions entre chercheurs sur d'où vient le lieu. Est-ce que c'était le lieu de la maison? Est-ce que c'était le quartier? Qui de la poule ou de l'œuf?
Ah, ça, oui, on ne sait pas toujours.
On n'est pas bien certain.
Ouais, d'accord. Ben, messieurs, c'est le moment déjà de faire notre première pause. On fait une petite pause musicale et on va se retrouver ensemble pour la deuxième partie de cette émission. Alors, je vais m'adresser un petit peu à Benoît parce qu'en fait, moi, je suis content que Benoît il soit là parce que je l'ai rencontré à Marquez. Et en fait, en me promenant dans la Marquez, le long d'un cours d'eau, un petit cours d'eau, il y avait un vieux moulin à eau, voilà. Et dedans, il y avait Benoît. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il faisait de la... Attention, hein, pas de la farine, hein, je ne vais pas me faire agresser. De la mouture. Et en fait, ce moulin, on va en parler, de quand il date, il fonctionne toujours. Et on peut voir des démos, et c'est vraiment chouette, quoi.
Alors, le système des meules, il date de 1760. Après, le bâti, il a été justement reconstruit au moment de la création de l'écomusée. Pareil, en déplaçant du cours d'eau un peu plus bas, comme ça, et on l'a remis en place. Par contre, les meules, elles sont de 1760, elles sont encore fonctionnelles. C'est des meules en silex.
Ah oui.
Et donc, on apprend beaucoup de choses en faisant tourner un moulin. Les gens adorent quand je leur explique les petites comptines d'où elles viennent. Par exemple,
Meunier Tudor.
Voilà, la fameuse Meunier Tudor. D'ailleurs, ils me font souvent la blague comme ça.
Oui, c'est sûr.
Et en fait, ça vient d'une raison très simple. C'est qu'en fait, un moulin, il faut toujours être un peu à le surveiller. Ça peut être très dangereux aussi du fait que c'est des meules en silex. Et ça
fait des étincelles.
Ça fait des étincelles s'il n'y a plus de grains qui tombent. Donc, il faut veiller au grain. Il faut veiller à ce que le grain tombe en permanence.
Non, mais c'est toujours intéressant de connaître l'origine des expressions et des noms. Il y en a, hein, des origines.
Et si on ne veille pas au grain, ben, ça va continuer à tourner. Il faut savoir que les meules doivent avoir écrasé du grain sur l'ensemble pour pouvoir expulser la mouture. Et que, ben, à un moment donné, s'il n'y a plus de grain qui tombe, eh ben, ça va accélérer. La roue n'est plus freinée. Et ça va un peu fumer. Et il suffit qu'il y ait une étincelle qui peut se produire parce que les meules sont très proches. Normalement, il n'y a pas l'étincelle comme ça, mais ça peut arriver. Et là, ça s'enflamme et ça explose. Ça déraille. Et donc, la chanson de Meunier Tudor, c'est... une comptine qui parle de, ben, vous savez, on chante de plus en plus vite, et après l'appareil phonatoire déraille. C'est la même chose pour le moulin, s'il déraille, et ben, là, il explose. Donc c'est notre langue qui rip, et là c'est les meules qui se frappent.
Alors
se frappe.
Ces meules-là, je suppose qu'elles ne viennent pas de l'Irlande, parce qu'en Irlande, on ne trouve pas beaucoup de roches, hein. Ce n'est pas un pays très, très rocheux quand même, les Landes. Donc je suppose qu'elles doivent venir d'autres régions de France.
Eh ben, les nôtres, elles viennent de Dordogne. Et alors, c'est un investissement qui va durer sur plusieurs générations, parce qu'on disait qu'on peut changer, on change de meunier, mais pas les meules.
Oui.
Le moulin disparaît, mais pas les meules. D'ailleurs, sur le site de Marquez, on a des anciennes meules, celles-ci en granit, qui viennent certainement des Pyrénées. Et le granit, eh ben, ça s'use plus. C'est une pierre molle, alors que le silex, c'est une pierre dure. Elle va mettre beaucoup plus de temps à s'user. Et les nôtres, ben, elles ont marché à peu près 150 ans. Donc c'est garanti sur plusieurs vies.
Oui, d'accord. De toute façon, ça ne vous engage pas grand-chose parce que vous ne serez plus là si jamais elle tombe en panne, hein, la meule.
Il y a de fortes chances.
Oui, il y a des chances, oui.
Et ouais. À l'époque, elle faisait une tonne, on le sait, puisque à la création de l'écomusée, ils les ont soulevées, mesurées, et elle faisait 700 kilos à peu près, parce que le meunier avait ce job, ça tournait en permanence un moulin, et l'alimentation de base était tout de même d'avoir du pain, l'équivalent d'un kilo par personne à tous les repas, avec la soupe, c'était la base alimentaire. Donc il peut imaginer qu'un petit moulin tournait en permanence, et le meunier repiquait ses meules toutes les trois semaines, comme ça, pour refaire les sillons. Et voilà, ça, au bout d'un moment, on perd un petit peu de pierre.
Oui, c'est sûr. Oui.
Mais il faut longtemps avant que ça disparaisse. Et c'est un moulin hydraulique. Voilà.
Oui, c'est un moulin en haut, c'est vrai. Et du coup, le blé, c'était du blé qui poussait dans le coin, qui était utilisé pour faire du pain.
Alors là, la petite subtilité, c'est que nous n'avons jamais eu de blé. Pas d'argent. Non, c'était du seigle.
Du seigle.
Parce que la manière d'enrichir la terre qui est très sableuse, c'est pareil ici.
Et oui.
On avait donc l'érial. On a parlé précédemment de l'érial. Et pourquoi Barthélemy parlait que l'érial s'est effondré au fur et à mesure, qu'on n'avait plus l'utilité des bâtiments. Surtout, on ne vivait plus comme ça. Parce que pour vivre dans un érial, être autonome en tant que fermier, il fallait des landes. Et là, à Marquèze, on met l'accent sur cette... système agropastoral.
Oui, voilà. Oui.
Il fallait les landes qui correspondent à peu près à la forêt de pins aujourd'hui. Et on allait amener les moutons. C'était énorme. Je crois que c'est un hectare par mouton. Et nos moutons, on les menait dans la vastitude comme ça pour qu'ils puissent se nourrir. Et on les ramenait à l'érial le plus possible afin de récupérer le précieux fumier, en fait, qui allait enrichir la terre. Et on pouvait faire pousser plusieurs céréales. Et le céréale panifiable pour nous était le seigle.
D'accord, oui. Ouais, donc c'est vraiment un écosystème en fait, hein, avec, donc il fallait qu'il y ait, pour que puisse tourner vivre l'érial, il fallait qu'il y ait telle surface de production de céréales, la forêt, etc. On va parler aussi à la prochaine partie, je pense que si on n'aura pas le temps, on parlera aussi bien sûr du gémage, hein, parce que c'est aussi une partie importante, hein, de la vie des Landes et de le pain, c'est une ressource très importante dans les Landes. Ça, je crois que tout le monde en est conscient. Ça ne sert pas qu'à faire du bois, mais ça a servi pendant des générations à faire des tas de choses. On a même exporté. Alors une petite parenthèse sur le. J'en ai parlé tout à l'heure là du site internet. Effectivement, il y a des petits fascicules à télécharger qui permettent de préparer la visite. Il y a quand même plein de sites différents. Alors, j'ai pas une liste exhaustive sous la main, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un endroit où il y a des animaux, il y a un endroit où il y a des... on peut voir quelqu'un qui file, je crois. Enfin, il y a énormément de choses.
Absolument. Et déjà, le quartier de Marquèze fait 25 hectares. Donc, il y a un espace immense qui fait qu'on a toujours cette impression de calme et de tranquillité. Et on peut se déplacer librement pour découvrir toutes ces personnes qui font vivre l'arial. Donc, effectivement, on a une basse-cour avec nos poules, nos dindons. Le dindon gascon est un animal très, très laid, d'ailleurs. Nos poussins, quand on a la chance d'en avoir et que le renard nous épargne. On a évidemment les moutons avec nos bergers sur les chasses. Et à tout endroit du site, selon le rythme de la journée et des saisons, des personnes qui font vivre. Alors effectivement, on a les fileuses qui filent la laine de nos moutons, évidemment.
Eh bien, divers savoir-faire sont mis en place. Donc on a aussi la fabrique des chapeaux, on tresse, on fait le fil. Alors il faut savoir, je vous ai parlé des céréales précédemment par rapport aux meuniers, mais on cultivait aussi le chanvre et le lin. Et les gens fabriquaient leur fil, en fait.
Bien sûr, oui.
On fabriquait tout ce qu'on pouvait faire.
Les sabots aussi. Les sabots en bois, à l'ancienne, oui.
Voilà, il y a une maison aussi comme ça dédiée aux anciens outils, comme ça, qui est sur l'Hermenière d'ailleurs. Oui. Et on voit comment on fabriquait autrefois à la main, sans électricité, des sabots en bois d'Orne. Oui. L'Orne qui est un bois très dur et très présent le long de nos rivières, qu'on appelle des forêts-galeries. Voilà, parce que, tout simplement parce que les arbres, les feuillus couvrent la rivière et c'est très beau. Petite Amazonie, ils disent, dans la Haute-Lande.
Oui, on dit ça des fois, mais c'est vrai qu'on a cette impression des fois.
Et on fait également fonctionner un vieux métier à tisser qui a été remonté par une association locale, Tissage et Patrimoine. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'il y en a vraiment pour les petits et les grands. Et on est dans cet espace très sécurisé parce que c'est un espace ouvert sur lequel il n'y a aucune voiture, puisque ah, c'est là que c'est possible,
oui, c'est vrai que c'est...
et par le train. Et en fait, avec des enfants, il y a vraiment la possibilité de passer une journée très agréable et très, très reposante, tout en étant très, très enrichissante.
Nous voilà de retour. En fait, on devrait ouvrir les micros pendant les pauses, parce qu'on en dit au moins autant que qu'à l'antenne, parce qu'il y a tellement de choses à dire et des gens passionnés ici. On a parlé un petit peu, bon, j'ai parlé rapidement du gémage, qui dit gémage dit pin et qui dit forêt. Donc, il y a eu une révolution, en fait, dans la forêt landaise, hein, par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que il y a eu des... Bon, je dis, on peut parler de Napoléon, effectivement, si on veut, parce qu'il est souvent cité, mais il n'est pas responsable de tout, quand même.
Non, il n'est pas responsable de tout, mais c'est tout de même un décret qui a obligé, en fait, les communes, les bourgs landais, à drainer leur territoire un peu humide et planter des pins. Mmh. Et avant que ça soit exploitable, tout ça, il faut à peu près 40 ans pour qu'un pin soit adulte et qu'on puisse le gémer. Mmh. Et donc, ça correspond aussi à une sortie du territoire de la archaïque, parce qu'on pensait que les Landes étaient un endroit délaissé depuis longtemps par les politiques publiques, etc. Mais les Landais vivaient dans leur arial tout de même d'une manière... ils avaient réussi, en tout cas, à s'y installer et la société agro-pastorale, comme on l'appelait, fonctionnait. Mmh. Alors, quand on a obligé à drainer et planter des pins, il y a simplement les bourgs qui ont pu, avec leur trésorerie, ils ont pu acheter, enfin ils ont pu le faire un petit peu. Mmh. Et après, c'est surtout des gens qui avaient l'argent pour acheter, enfin pour le faire en fait, avec du temps long, etc. Ça a bouleversé complètement la société en effaçant toute une partie des gens qui y vivaient. Et c'est le sujet de Félix Arnaudin quand même.
Oui.
Vous pouvez regarder tous ses livres, il parle que de ça, puisqu'il est allé au plus près des gens pour leur témoignage, leurs proverbes, leurs histoires, leurs contes, leurs chants, leurs mots, et les photographies aussi, il s'est formé à la photographie pour ça. Et c'est ça aussi qu'on montre pas mal à Marquez, notamment dans la Grange Exposition, quand vous viendrez visiter. Je pense que les trois quarts des photos sont de Félix Arnaudin.
Oui, qui est connu. Il y a des salles Félix Arnaudin. Enfin, il est assez connu, il est assez honoré, je crois, dans la région. C'est un nom qu'on entend souvent.
Donc ça ne s'est pas fait sans heurts, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de gens qui... pour imaginer les bergers, il y avait 1 million, on estime à peu près 1 million de brebis à cette époque.
Oui.
Et donc ces brebis qui fumaient qui donnaient le fumier pour les champs, et au fur et à mesure qu'il n'y a plus d'espace pour les brebis, il y a moins de fumier, donc moins de possibilités d'enrichir les champs.
Oui, bien sûr,
donc ça diminue comme ça. Et et c'était très dur au départ, et après il y a eu quand même une petite stabilisation où le pin, on appelait ça l'arbre d'or, où ça a enrichi un peu le territoire aussi, beaucoup, l'a assaini. C'est pas le simple mot qu'on dit, les Landes c'était invivable, c'est que des gens moches, biscornus et tout ça, non, c'était aussi une manière à cette époque d'exploiter un territoire qui n'était pas. Moi ce que j'aime dire à Marquez, c'est que l'arial, c'est la propriété privée qui correspondait à 10%, et 90% c'est ce qu'on appelle les communs autour, ce qui appartient à tout le monde et à personne. Avec les lois de Napoléon, ça a changé à l'envers, c'est-à-dire il y avait 90% de propriété privée et 10% de communs qui n'appartient à tout le monde et à personne.
D'accord.
Donc là, imaginez que ça change beaucoup le territoire, mais il y a un petit souffle de liberté. Moi, je trouve que dans les Landes, nos forêts, elles sont quand même, bien que privées, elles sont souvent agréables et très belles. Oui. Les gens, ils sont très, très attachés, ce pain industriel, voilà.
C'est vrai que c'est souvent privé. Mais alors après, par contre, au rythme des randonnées, des fois, on a des mauvaises surprises. Hein. Des coins qu'on a l'habitude de traverser, qui sont très jolis, et on arrive, et j'appelle ça une dévastation. Et tout à coup, des machines sont passées, et en fait, il n'y a plus qu'un champ de bataille, un champ de ruines. C'est assez triste, des fois, je trouve. Hein.
C'est un peu toute l'histoire de la forêt des Landes, qui est une grosse évolution. Donc on a dit, ça commence au Second Empire avec Napoléon III, qui impose la plantation, et donc on a cette disparition du régime agro-pastoral, puisqu'on ne peut plus faire circuler les moutons librement. Peut-être la raison de base, c'est sans doute parce que les moutons mangeaient les jeunes pins, donc ça ne laissait pas la forêt grandir au tout début. Donc cette société disparaît. Puis on a la période de la résine, qui a aussi été une période assez dure pour les gemmeurs. C'était un métier extrêmement difficile.
Oui.
Au cours du XXe siècle, la résine s'effondre, notamment avec la concurrence du Portugal, et la forêt landaise passe plutôt du côté de l'exploitation du bois.
Du bois lui-même.
Et donc la volonté de produire du bois. On sait que c'est aujourd'hui une ressource très importante avec des techniques là où on n'a plus la possibilité de couper les pains un par un au fur et à mesure dont on a besoin, et donc des coupes rases avec on espère de plus en plus cet effort pour avoir des coupes rases qui soient limitées pour pas dévaster un territoire entier. Mais je crois qu'il y a il y a une vraie sensibilisation des propriétaires, et Marquès fait partie du parc naturel régional des Landes de Gascogne qui vraiment fait un énorme travail de sensibilisation sur la question de la forêt, et aujourd'hui en plus particulièrement sur la résilience à l'incendie.
Oui, bien sûr. Oui.
On parlait des gémeurs, donc le métier était très dur, ça il faut jamais l'occulter. Mais par contre, les gens étaient très fiers aussi. Parce qu'on menait, en fait, c'est un peu, moi je vois ça comme un peu un jardinage de la forêt, puisqu'on va sélectionner les pins au fur et à mesure de leur âge, pour avoir ces pins fameux là qu'on appelait les pins gémés à vie. Pendant 80 ans, jusqu'à 90 ans, on les gémait.
Ouais.
Et ce bois-là était considéré comme un bois indestructible à la fin de leur vie. On mettait une carte de tous les côtés, ce qui faisait perdre l'humidité du bois. Il était ensuite coupé, mis en forêt en novembre, comme ça, lavé par les pluies. On terminait ça le durcissait, en fait. Les gens ne savent pas, mais le bois qui est trempé dans l'eau pendant longtemps, c'est le bois qui est le plus sec après, qui devient le plus dur.
Ouais.
Qui ne fend pas. Et alors, les gens étaient très, très fiers de ça, d'avoir, de porter du pain à une sorte de quintessence pour la construction, etc. Il y a des granges qui ont 150 ans, qui sont toujours debout sans problème. Et j'ai eu des témoignages de gens de Parentis-en-Born, par exemple, qui m'expliquaient que quand il y a un lotissement ou quoi, et qu'il faut démonter une vieille grange... Eh ben, ils la gardent pour la remettre à l'identique. Souvent, quelqu'un se dévoue pour aller la chercher parce qu'en fait, c'est un bois extraordinaire qui est dur, quoi. Donc voilà, ça, c'était ça aussi un peu la fierté des gens. Les poteaux des mines aussi, vous en parliez, parce qu'il y a ce pin gémé à mort, le grand bois qu'on faisait les pinasses aussi avec. Mais il y a les gémés à mort, c'est les petits bois de 40 ans. Déjà, 40 ans, c'est pas mal. Aujourd'hui, on n'attend pas autant. Et ben ce bois-là, il a servi tout de même aux poteaux téléphériques. Télégraphique du Royaume-Uni, puis des États-Unis aussi. Et parce que le pinlandais était très réputé d'être bien sec et de pas fondre, d'être assez dur. Et donc ça, c'était une fierté, je pense, pour les gens quand même énorme de s'occuper de ça. Voilà.
Alors de la même manière, on parlait d'exportation du bois et tout. C'est vrai que le gémage, c'est récupérer la résine. Le composant principal que les gens connaissent le plus, c'est la térébenthine. On connaît tous l'odeur, qu'ils aient fait de la peinture ou pas. Voilà. Mais il y a aussi la colophane. Bon, alors c'est un produit qu'on utilise essentiellement qu'on met sur les archets, de violons, des violoncelles, qui permet de dire que l'archet... accroche les cordes et les fasse vibrer. Et ça, au 19e siècle, on exportait ça tout en Europe et jusqu'aux États-Unis aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a basculé, le gémage a diminué, et puis c'est devenu le bois le bois pour lui-même a été exploité. Alors, on parle évidemment des résineux. En ce moment, on sait qu'il y a quand même une problématique importante, c'est le réchauffement climatique. D'ailleurs, question ouverte, est-ce qu'un jour il faudra essayer de planter d'autres essences que les pins qu'on a ? Voilà, je ne sais pas. Mais il y a l'incendie, le feu, c'est un sujet qui est abordé dans un musée. Chez vous aussi, c'est très intéressant d'en parler.
Oui, absolument. On a cette année la chance d'avoir une exposition temporaire qui a été montée par le collectif de photographes Les Associés. Et qui ont fait tout un travail après la période des incendies. Donc, ce n'est pas vraiment une exposition sur les grands incendies de 2022, mais sur l'après les incendies. Donc, ils ont récolté beaucoup de témoignages, ils ont fait beaucoup de photos, et ils ont essayé de penser aussi la forêt à travers leurs yeux d'artiste. Et une des choses qui les a inspirés, c'est la forêt mosaïque. Donc, effectivement, c'est une forêt qui est diversifiée. Mais en réalité, la diversification, elle existe déjà dans la forêt landaise. Et on la voit à Marquès. On a ce qu'on appelle la forêt galerie. Donc, le long de l'escamate, on a la chance d'avoir ce ruisseau qui coule et qui rejoint la grande lère et qui amène beaucoup de fraîcheur. Et une zone marécagère qui va aussi faire l'objet bientôt d'un nouveau parcours, dans lequel on voit toute la diversité d'espèces et notamment de feuillus que l'on peut trouver. Et l'aérial également, on protège les feuillus sur l'aérial, les feuillus qui sont les arbres typiques de l'aérial, notamment les chênes. Donc cette diversité, elle existe, il faut la connaître et la préserver. Et ça fait aussi partie des choses qu'on présente à Marquès, et on organise régulièrement des événements avec des partenaires et des chargés de mission du parc naturel régional pour avoir cette sensibilisation dans ce cadre où finalement on arrive à percevoir un peu tout ce qui est présent dans l'Outland. On arrive à avoir une concentration d'informations extraordinaire.
Alors c'est vrai, alors j'en ai parlé au Rantel, on plaisantait par rapport à ça, mais si vous allez là-bas, si vous êtes landais, ne vous offusquez pas, parce qu'il y a un endroit où on parle, il y a des extraits de, comment dire, de commentaires de gens au cours de l'histoire qui parlent des landais, et je vous assure que c'est pas glorieux. On est traité d'être jaunâtre, malingre, désagréable, on dirait presque des hommes préhistoriques et tout. Bon, c'est anecdotique, mais c'est des vraies citations des fois de gens très connus, de lettrés, etc.
Tout à fait, il y a même la réputation, les landais avaient la réputation d'avoir le gros orteil opposable.
Oui.
Donc comme les singes,
oui, voilà,
parce qu'ils montaient aux arbres pour résiner. Alors il y a beaucoup d'interprétations. On pense quand même que il y a une volonté de décrédibiliser les Landes au moment de la colonisation et de la création de la forêt landaise, pour dire en fait on colonise, on apporte la civilisation à ces sauvages.
C'est ça.
Et ça a beaucoup marqué le caractère landais. Les Landais aujourd'hui, on est quand même très discret. On se met assez peu en valeur. On joue parfois même avec la manière dont on peut nous regarder parfois du haut. Moi, c'est quelque chose que je sens encore présent dans la société landaise.
Comme on dit, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage.
Absolument.
Je voudrais préciser quelque chose par rapport au pin. Donc nous, on est à Marquèze, on est au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui correspond à ce triangle-là, le triangle des Landes, disait le poète Manciette. Et là, il y avait vraiment beaucoup de Landes pour justement ce régime, comment dire, agro-pastoral. Par contre, le pin landais... Le pin maritime, il est là depuis toujours. Il y avait donc à l'époque, qu'on dit 1850, on estimait à 200 000 hectares le nombre de pins maritimes, mais c'est plus, vous voyez la 10, plus côté ouest comme ça. Donc là, on est à Tos, Tyros et tout ça, il devait y avoir du gémage depuis très 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 longtemps. Et c'est quand même, parce que des fois on a l'impression que c'est fait de toutes pièces, mais c'est pas des eucalyptus non plus, c'est des pins maritimes, c'est le pin Pinus pinaster, c'est le pin quand même d'ici, adapté à notre territoire.
Bien sûr.
Ça c'est important quand même de le rappeler.
C'est le moment de faire notre dernière pause et attaquer la dernière partie de notre émission. On se retrouve tout de suite. On va parler un petit peu de la dernière partie de l'émission. Il y a une actualité, on parle pas que du passé, mais aussi il y a des choses qui se passent, qui sont à venir.
Bah oui, cette année comme l'année dernière, on a décidé d'ouvrir Marquèze à un moment un peu incroyable qui est celui du coucher du soleil. Et donc de proposer des nocturnes. Donc on avait une nocturne hier avec le groupe Rafu qui a fait un magnifique concert. C'était vraiment un moment un peu hors du temps.
Oui.
Et on renouvelle l'expérience le 11 août avec cette fois-ci un spectacle familial qui s'appelle Sauvage. C'est un spectacle théâtral avec de grandes marionnettes qui présente l'histoire d'un faucon qui se balade à travers le monde, rencontre beaucoup d'animaux pour essayer de comprendre cette espèce animale envahissante qu'est l'humain.
Ah oui.
Donc ça va être un très beau spectacle. On peut venir en famille, on peut venir avec son pique-nique ou profiter du four à pain ou de la buvette. Et ça permet de découvrir l'Arial à la tombée de la nuit. Et quand on n'a pas la chance de vivre sur un Arial, c'est fantastique.
Ouais. Il n'y a plus de loups maintenant en plus.
Et on n'a pas de loup après.
Mais ouais, dans les Landes, on en a vu un, hein, à Castet, ça, il n'y a pas très longtemps. Hein. Attention, ils vont revenir. Hein. Les échassiers, ils vont pouvoir grimper sur les échasses pour leur échapper.
Mais les loups étaient bien utiles quand on avait des millions de brebis. Il fallait bien débarrasser un peu des carcasses.
Voilà, oui, ça fait le tri. Hein. Parce qu'en général, ils attaquent l'animal blessé ou faible du groupe. Hein. Il me semble que les loups, ils fonctionnent comme ça.
Exactement. Et par rapport à ce qu'il disait dans les Rial, je vous conseille vraiment de suivre cette actualité... Des nocturnes, parce que, dans le parc, pas mal de villages, si je ne dis pas de bêtises, ils ont, le parc naturel régional, là, ils ont été adoubés par la réserve internationale de ciel étoilé. Il y a quelques endroits comme ça en France et dans le monde.
J'ai reçu l'observatoire de Dax lundi.
Hier,
ou vendredi
dernier. Toutes les constellations sont visibles, c'est quelque chose de fou, quoi.
Et oui, bien sûr, dès qu'on s'éloigne de la ville.
Aucune pollution nocturne.
On a une très belle qualité de ciel. C'est un très beau travail qui a été mené par les élus et le parc naturel régional. Et on va pouvoir célébrer ça pour la nuit des étoiles le 3 août. Alors là, attention, il faut guetter les réseaux sociaux parce que les places partent en quelques heures. Donc on va annoncer sur les réseaux sociaux l'ouverture des places dans les jours qui viennent. Et il faudra aller très très vite pour profiter de Marquez avec l'association Astronomie Gironde 33 qui vient de Socat avec un matériel, qui va faire des conférences.
D'accord.
Un très beau moment.
Ah bah c'est, ouais, c'est bien d'en parler. De toute façon, je mettrai le lien vers le site internet. Faut que je mette aussi le lien vers la page Facebook, etc. De l'écomusée, parce que comme ça que les gens puissent avoir directement le lien pour s'intéresser à vous et pour vous suivre aussi et pour voir ce que vous proposez. Alors, il y a tellement de sujets qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder. C'est vrai, notamment rapidement, c'est vrai qu'il y a quand même des mobiliers, des objets anciens qu'on peut trouver qui sont vraiment étonnants. Ça a toujours un côté un petit peu émouvant de retrouver la vie des autres. Je trouve que dans les objets restent des traces, en fait. Moi je pense pas que... Je crois pas vraiment aux fantômes, mais je pense que des fois il y a des choses qui restent accrochées dans les objets. On ressent un petit peu la trace des autres. Peut-être ce qui reste de nous quand on n'est plus là, c'est les objets qu'on a utilisés. Il y a quelque chose d'émouvant, moi je trouve.
Oui, et puis une vibration très particulière dans les maisons à Marquez. On a vraiment essayé de... C'est pas un amas de choses. On a essayé de restituer vraiment cette ambiance. Et puis il y a assez peu de... On peut circuler à peu près partout. Les choses sont à portée de main, même s'il faut pas y toucher. Mais
oui, bien sûr.
On ressent vraiment quelque chose, je crois, quand on va sur l'Arial.
Et quant à les meubles qui sont frottés à la térébenthine naturelle, mm-hmm. qui est très difficile à avoir aujourd'hui, mais oui. L'écomusée, évidemment, ils astiquent leurs meubles avec ça. Et mm-hmm. je vous dis, les gens, c'est leur Madeleine de Proust, parce que ça les transporte dans leur enfance.
Mm-hmm. Ah oui, c'est très émouvant. Moi, j'ai le même sentiment quand je rentre.
Oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, surtout quand on se sent rattaché. Bon, voilà, j'ai dit, mon grand-père était gemmeur. Voilà. Donc, bon, malheureusement, j'étais trop petit. Lui, on a une différence d'âge qui était énorme. Donc, j'ai jamais parlé de ça avec lui. C'était transmis plutôt par mes parents, cet aspect-là. Mais voilà. Donc, on m'a raconté ce que faisait mon grand-père. Hein.
Tu retourneras nous voir alors.
Ah, ben, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà.
Moi, au gemmage.
Vraiment. Et alors, moi, je dis, voilà, aux gens qui nous écoutent, alors ceux qui connaissent pas Marquez, qui sont du coin, qui s'intéressent un petit peu, tant soit peu, à la culture, à l'origine des choses, comment on vivait avant, il faut absolument y aller. Enfin, je veux dire, voilà, les gens qui sont pas d'ici, bien entendu, s'ils veulent un petit peu avoir une idée de ce que c'était les Landes et pourquoi c'est comme ça, voilà. Mais vraiment, c'est un endroit, je crois qu'il faut y aller au moins une fois dans sa vie quand on est du coin. Franchement, ça me semble un peu incontournable. Moi-même, je suis retourné récemment et j'ai ressenti des émotions que je n'ai pas ressenties gamin. Voilà, ça m'a fait du bien.
Et tous les gens qui y travaillent sont de véritables passionnés ou se sont passionnés de plus en plus au contact justement de cette beauté, comme ça, des objets et de la nature. Et je tenais à dire ça aussi, qu'on est fortement enrichi justement par les gens qui viennent et qui amènent leurs souvenirs, leurs anecdotes,
oui, c'est ça, oui,
et leur savoir. Et donc c'est vraiment un lieu où la culture orale est mise en avant et elle est partagée, elle est aussi disputée et elle est conviviale.
Voilà. Elle est vécue, ouais. Marquez, c'est vraiment un lieu où ça vit, où ça vit et ça partage. Et moi, je partage tout à fait la vie de Benoît. On a des personnes qui sont absolument passionnées et passionnantes. Et on le voit sur les retours extraordinaires que nous font nos visiteurs.
On a la chance d'en avoir dans le studio. Bah écoutez, messieurs, c'est à regret que je vais vous dire que c'est la fin de cette émission. Parce que voilà, c'est un sujet vraiment super intéressant. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. C'était vraiment très intéressant.
Et comme la fin aussi à Marquez prévoyait de venir sur plusieurs heures, parce que les gens regrettent des fois, ils pensent qu'en 2 heures ils vont faire le tour, mais non, il faut au moins 4 heures.
Et puis quand on voit l'heure, on dit « Oh mince, si on loupe le train du retour, il va falloir qu'on marche le long de la voie jusqu'à la gare d'origine et ça fait une petite trotte.
Ben, » un grand merci, c'était un plaisir de venir partager tout ça ici.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Merci à toi.
Au revoir.